tac 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 à la tac 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 tac, Libre Radio, la radio qui claque, la radio qui contre l'Empire contre contre-attaque.
Donc nous sommes au salon du livre anarchiste ici à Berne. Et comme la règle le veut, eh bien on commence par une interview en français, parce qu'il est vrai que beaucoup de personnes qui fréquentent ce salon du livre, qui exposent ici, sont francophones ou francophiles. Et il se trouve que nous-mêmes, de la partie francophone de Suisse, eh bien on parle beaucoup moins bien l'allemand que eux ne parlent le français. Alors bienvenue Isabelle Pivert, tu es donc la directrice des éditions du Sextant, et tu as donc un stand ici aujourd'hui.
Exactement, donc les éditions du Sextant sont basées à Paris, en France. Et je suis ravie de venir passer quelques jours à ce salon donc, du livre anarchiste à Berne. Donc, nous sommes début juin, hein, fin mai, début juin. Les éditions du Sextant, donc, c'est une maison d'édition indépendante qui existe depuis une quinzaine d'années, qui a développé donc, une ligne, donc, c'est plutôt une maison de sciences humaines et sociales, hein, et donc entre autres avec une ligne de réédition de textes épuisés de l'histoire de l'anarchisme, je pense donc d'un seul courant, en fait d'un courant qui est le communisme libertaire, hein, donc, ou anarchisme communiste. Les autres courants étant l'anarchisme individualiste et le syndicalisme révolutionnaire. D'autres éditeurs s'occupent de ces courants-là, donc nous on s'est intéressé à ce courant. Pourquoi ? Parce que c'est un courant qui s'intéresse à l'organisation économique et sociale, et notamment donc, dont sont issus les mutuelles, les coopératives, etc. Donc ce sont des textes, je vais citer Pierre Kropotkin, qu'on connaît tous, puisqu'il a passé quand même quelques temps en Suisse et en Angleterre aussi, où je parlais aussi de Élisée Reclus, donc qui est aussi proche. Hein, voilà. Donc on réédite des textes, des conférences d'Élisée Reclus, des textes de Kropotkin, notamment ses mémoires, hein, Autour d'une vie. On a fait aussi du texte contemporain pour faire donc, une biographie d'Élisée Reclus, qui continue toujours. Et puis on a surtout une petite collection aussi pour parler de ces textes épuisés qu'on réédite, une petite collection qui s'appelle Les Increvables. Et là, c'est des petits textes à entre 7 euros, 8 euros. Et ce sont des conférences prononcées donc, par des personnes comme Jean Grave, qui était également proche de Kropotkin, par Voltairine de Clare, qui était une anarchiste américaine. Donc c'est plutôt donc, le fin du 19e, début du 20e. Voilà. Et c'est un travail, je pense, qui est important. Ces textes étaient épuisés et je vois que beaucoup de jeunes gens achètent ces petits livres, sont très intéressés par également un texte, La conquête du pain de Pierre Kropotkin, etc. Je peux dire qu'en tant qu'éditrice, je suis plutôt contente en tous les cas de la marche, des ventes, de la réception des jeunes à ces textes-là. Sachant que ces petits textes donc, de la collection Les Increvables, on met toujours une préface qui va contextualiser et dire quelque part en quoi ce texte il est actuel, en quoi il résonne aujourd'hui. C'est toujours, on ne balance pas le texte comme ça du 19e ou du début du 20e. On explique et puis il y a un appareil de notes, ce qui explique que voilà, il y a quand même un travail éditorial derrière.
Bien sûr. Voilà. Alors tu as parlé d'auteurs comme Élisée Reclus, comme Jean Grave, comme Pierre Kropotkin. C'est effectivement ici au Salon du Livre Anarchiste, c'est des auteurs qui parlent, les gens les connaissent. Mais qu'en est-il des personnes qui vont picorer, trouver, débusquer ces livres-là ? Y a-t-il des biographies également ? Ou de quelle manière est-ce que le livre lui-même contient quelques repères historiques ou concernant les personnes, les autrices et les auteurs de ces textes que vous éditez ?
Oui. Dans la petite collection, oui, il y a toujours quelques... Par exemple, il y a l'Anarchie de Reclus qu'on a réédité, comme d'autres éditeurs. Bon, il y a toute la préface, l'introduction, c'est des repères biographiques sur Élisée Reclus. Ouais. Bon, à côté de ça, on développe, on a réédité donc, les mémoires Autour d'une vie, mémoire d'un révolutionnaire de Kropotkin. On a fait donc, la biographie, on a publié donc, un auteur... contemporain, la biographie d'Élisée Reclus. Jean Grave, on a publié ses mémoires, réédité ses mémoires dans son texte original. Donc oui, il y a tout un travail sur la vie justement de ces auteurs, leurs idées, leurs démarches et leur vie qui souvent s'apparente à des grands romans d'aventure.
Absolument. Hein. C'est pour ça que c'est intéressant de contextualiser parce que c'est d'autres temps, d'autres mœurs. Et, et c'est vrai que ça nécessitait aussi un engagement qui est différent, en tout cas de celui que l'on peut, auquel on assiste aujourd'hui. Ouais. Revenons-en sur, si tu le veux bien, sur ce courant dont vous vous occupez. Quelles sont selon toi les singularités du courant anarcho-communiste justement qui le singulariserait par rapport typiquement à l'anarchisme individualiste pardon.
Oui, l'idée c'est que ils vont s'occuper à l'organisation sociale et donc on le voit très bien d'ailleurs dans le livre de Kropotkin, La conquête du pain. Donc on voit bien qu'ils pensent organisation entre les personnes, hein, donc basée sur l'autogestion, etc. Par rapport à l'anarchisme individualiste qui a fait, je dirais qu'il y a eu son heure de gloire dans les années 60, 70, enfin c'est mon impression, notamment en ayant abouti à des, en tous les cas en France, à des lois entre guillemets libertaires, puisque ce sont des lois émancipatrices comme la loi pour la contraception, la loi pour l'IVG. Donc des tas de lois qui ont en fait émancipé les femmes. Après, donc ça, ce sont des lois qui permettent la liberté de l'individu, hein, qui l'émancipe. Oui, oui. Et en revanche, tout ce qui était organisation économique et sociale n'avait pas été vraiment encore vraiment. Ça avait été un peu oublié. Le courant avait été un peu oublié. Et nous, on a republié ça dans les années 2000, en fait, quand on s'est créé à peu près avec ça. Et aujourd'hui, je pense que, notamment avec, mais pas seulement, même le mouvement des Gilets jaunes, il y a une forme d'auto-organisation qui apparaît. Et c'est pas les Gilets jaunes qui l'ont inventé, parce qu'on a publié aussi des textes contemporains, par exemple, sur ce qui s'est passé au Brésil en 2013. Il y a eu des manifestations monstres. Il y avait aussi une revendication par exemple, de gratuité des transports collectifs, etc. Et aussi une manière d'organiser ces mouvements. Donc c'est le mouvement au Brésil, ça s'appelait le mouvement MPL, enfin le mouvement pour la liberté des tickets de métro, etc. Mais c'était beaucoup plus que ça. Et c'était des mouvements, effectivement, qui s'organisent de manière horizontale. Sans leader, etc., etc. Donc on a publié aussi ce livre-là qui s'appelle « Ville rebelle, comment la rue affronte le nouvel ordre capitaliste mondial ». Livre collectif.
Oui, ouais, d'accord. Comment est-ce que vous débusquez ces textes-là et comment vous filtrez plutôt ça que ça quand vous éditez? Parce que j'imagine qu'il faut quand même faire des choix sur tout ce qui nous entoure.
Oui.
Alors voilà, comment est-ce que vous allez dire « Tiens, cette conférence-là, tiens, cette prise de parole-là, eh bien, il en existe un texte ou un enregistrement sonore, je ne sais pas. » Enfin, quel est le processus qui mène un texte et sa découverte jusqu'au moment où il est édité et que les gens peuvent le trouver?
Ça, c'est une question un peu difficile parce qu'en fait, c'est multiple. La réponse est multiple. C'est-à-dire qu'on peut... l'éditeur, il est toujours un peu en veille, donc il va regarder ce qui se... Il va être au courant de son actualité politique, économique et sociale dans son pays, et puis il va retrouver des textes. Il y a une recherche de textes, par exemple, issus de l'anarchisme. On va essayer de trouver qu'est-ce qui pourrait parler aux gens aujourd'hui. Voilà, et donc ça, c'est un peu une démarche. Mais ça peut être aussi des lecteurs ou des gens dans un salon qui vont dire « Ah, mais moi, je connais... » ce texte-là de l'histoire de l'anarchisme, c'est épuisé, c'est un très bon texte, il faudrait absolument le rééditer. Et ça, c'est aussi une source importante, hein, en fait.
Voilà.
Des lecteurs ou des gens plus âgés qui ont une connaissance historique plus grande, qui vont suggérer des projets.
Donc vous êtes toujours en alerte pour trouver...
Oui, en veille.
Voilà, en veille, comme tu l'as dit.
On écoute, quoi,
Et des petites, pour débusquer des pépites comme ça qui seraient enfouies ici ou là dans la mémoire des gens. Excellent, excellent. Dis-moi, alors quels sont justement le retour des gens qui vous lisent? Est-ce qu'il y en a-t-il un? Puis la question qui va avec, le deuxième volet de la question, c'est de quelle manière est-ce que vous travaillez avec des distributeurs et avec quels distributeurs? Est-ce qu'il y a une complicité qui se met en place pour que vous puissiez... propager finalement les livres, parce que les éditer c'est un gros travail et c'est bien, mais ensuite il faut justement qu'ils trouvent leur petite place dans les rayons des libraires.
Oui, voilà, ça c'est un peu la distribution, c'est le nerf de la guerre, quoi. Je veux dire, on peut faire des très bons bouquins et avoir une diffusion très 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 faible. Alors nous on a plusieurs, enfin depuis une quinzaine d'années qu'on existe, plusieurs possibilités. Bon, au début, on a travaillé avec un distributeur national, enfin même qui vendait en Suisse, Harmonia Mundi. Bon, ça s'est arrêté il y a un an. Enfin, ils ont un peu changé d'optique, de façon de fonctionner. Donc là, on travaille avec Obo Diffusion à la diffusion et Macassar à la distribution. On peut dire que depuis un an, effectivement, la diffusion des livres issus de l'anarchisme est meilleure que dans notre premier distributeur. Donc on est plutôt content. Mm-hmm. Bon, en revanche, c'est peut-être plus difficile de pousser des livres plus larges, parce que comme on ne fait pas que de l'anarchisme, on fait aussi on essaye d'explorer des domaines, d'autres domaines, des questions de société contemporaine. Par exemple, on a fait des choses sur les mineurs délinquants, etc. Donc des questions de société ou l'enfance maltraitée. Ça, c'est plus large, ça intéresse plus largement un public, et donc c'est peut-être plus difficile pour un diffuseur très exclusivement politique de vendre des sujets moins politiques, entre guillemets. Ouais. Parce que on peut dire que tout est politique.
D'une certaine manière, tout est politique.
Voilà. Absolument. Mais donc, donc là, alors ça c'est le distributeur, les librairies, c'est un axe. Le deuxième axe, c'est évidemment les foires, les salons. Et là, c'est très important, pas seulement pour vendre. Donc, c'est souvent, on vend bien dans les salons. Donc, ça peut être aussi sur tout le territoire français. Donc, on amène des livres que les gens n'ont pas l'habitude de voir dans des régions où il n'y a pas forcément beaucoup de librairies. Hein, donc, c'est important aussi. Ensuite, c'est aussi des publics différents. Ça peut être des publics d'étudiants ou de gens, même dans des zones rurales, hein, donc, où ils sont beaucoup demandeurs de livres. Mais aussi, c'est important parce qu'on a un retour en tant qu'éditeur de lecteurs. Donc on va voir des gens qui ont déjà lu, qui ont déjà acheté, ils vont nous dire « celui-là j'ai bien aimé, celui-là j'ai pas aimé, ou pourquoi, etc. » Donc on a aussi un dialogue, un échange. Et c'est aussi très important, je pense, que l'éditeur soit en face, voit ses lecteurs. Parce que souvent, l'éditeur il est dans son bureau, il reçoit ses auteurs. Mais je pense que c'est très important.
Les lecteurs, on a peu contact avec eux. Oui. Et avec les libraires, vous arrivez comme ça à avoir un réseau avec lequel vous partagez également des choses, ou ça c'est plus le distributeur qui fait le travail?
C'est plus c'est certainement un manque. C'est-à-dire qu'on aimerait connaître mieux les libraires, mais c'est vrai que les libraires sont submergés de cartons de livres, et parfois un petit éditeur, même s'il ne va pas avoir le temps, etc. Donc on pêche un peu, enfin les éditions du Sextant, de ce côté-là, au niveau du contact avec les libraires qu'on n'a pas trop, et qu'on laisse le diffuseur le faire, ou le distributeur.
Chacun son métier.
Voilà.
Les éditions du Sextant, c'est www.éditions-du-sextant.com. Ça, c'est le site internet sur lequel on trouve, j'imagine, le catalogue et puis toutes ces choses-là, toutes ces informations. Mmh. Est-ce que par ailleurs, vous organisez également des lectures, ou ça c'est... Ça, c'est plutôt un travail également du libraire, j'imagine.
Ça arrive. On en a fait une récemment à la librairie Publico à Paris. Donc c'était l'histoire du facteur cheval, son parcours. Et donc il n'y a pas beaucoup de livres dessus. Et donc l'auteur est venu faire une conférence avec des comédiens qui ont fait une lecture, etc. C'était très bien.
Facteur cheval, dont on pourrait dire en quelques mots qu'il a fabriqué son mausolée à lui.
Le palais idéal.
Et le palais idéal, tout au long de sa vie. Je crois que ça a pris quoi
Toute sa vie, toute 40, sa vie. 47 ans.
Voilà, plus de 40 ans. Ça, c'est une aventure également. Dis-moi, quels sont alors pour vous les... puisqu'on est au Salon du Livre Anarchiste, revenons-en à l'anarchisme, et notamment au courant qui nous occupe aujourd'hui, donc l'anarcho-communisme. Quelles sont les figures tutélaires, selon toi, qu'il serait intéressant, qu'il serait avisé que l'on lise? Tu as cité déjà quelques auteurs, mais y en a-t-il d'autres comme ça qui surgissent dans ton esprit?
Moi, c'est vrai que je vois surtout, pour connaître vraiment la pensée de ce courant, c'est Kropotkine. Bon, on peut penser à Proudhon aussi, la Banque Populaire, mais je vois Kropotkine, Reclus, Voltairine de Clare.
C'est vraiment ces figures-là
qui... Oui, c'est vraiment eux. D'ailleurs, Jean Grave, ses mémoires, ça raconte comment ça s'appelait... Enfin, ce titre était publié par Flammarion en 73 sous le titre « 40 ans de propagande anarchiste ». Donc comment, avec les journaux, les brochures, comment ils arrivaient à se faire connaître, à diffuser leurs idées. Donc c'est très, très intéressant. Ça rejaillit sur même aujourd'hui l'organisation d'un mouvement anarchiste. Ça peut donner des idées. Ils organisaient des tombolas, des artistes donnaient des choses, etc. Donc c'est très très concret. Moi je vois ça, de toute façon, Kropotkin pour moi c'est incontournable.
Oui, l'entraide, enfin moi j'ai beaucoup aimé l'entraide, c'est quelque chose que je relis régulièrement.
Ou la conquête du pain.
La conquête du pain c'est fantastique également. Voilà. Quelles sont par ailleurs justement les notions? Je pensais aux notions par exemple, parce qu'on n'a pas parlé justement des anarcho-syndicalistes, qui est justement, pourrait-on dire, une troisième partie du courant anarchiste. Est-ce que la notion du travail, dans le sens où elle peut aussi générer une organisation parallèle, autonome, une mutualisation, pour reprendre Pelloutier, est-ce que ça c'est quelque chose quand même qui vous habite aux éditions du Sextant? Enfin, y a-t-il des passerelles qui s'opèrent?
Oui, il y a bien sûr des passerelles. On est très proche, on connaît très bien les éditions Libertalia, par exemple, qui travaillent plutôt sur ce domaine-là, entre autres, et l'éducation, Ferrer, etc. Oui, il y a forcément une proximité. D'ailleurs, moi-même, j'ai écrit quelques livres et donc, sur le milieu du travail dans la grande entreprise capitaliste. Donc forcément, je suis sensibilisée à la notion de travail et de comment on vit, comment on aménage, comment on travaille, forcément. Le livre que j'avais publié, c'était il y a une dizaine d'années, c'était sur les gens qu'on appelle les licencieurs, ceux qui sont payés pour fermer des usines, etc.
Liquidateurs.
Voilà, exactement, cost killer ou quelque chose
comme ça. C'est horrible ces mots.
Oui, c'est horrible.
les notions telles que l'intersectionnalité, ça c'est aussi des choses qui vous habitent et qui résonnent en tout cas au moment de vos choix éditoriaux?
Ça, je saurais moins, en fait.
D'accord.
Je saurais moins...
Et puis, alors, dis-moi, comment ça se passe avec, justement, les autres éditions? Tu viens de parler de Libertalia, tu en as cité d'autres avant, je ne sais plus lesquelles, mais est-ce que, quand même, on parle entre nous, entre éditrices et éditeurs?
Bien sûr, on regarde chacun ce que chacun fait ou sort. On essaie de se prévenir si on sort un truc très proche, parce que c'est vrai que ça m'est arrivé une fois de publier un petit texte et une autre personne en même temps, et donc c'était bon, c'est pas grave, ça élargit la diffusion, mais bon, au niveau des ventes ça réduit par deux, quoi.
C'est ça.
Mais oui, on se parle, de toute façon on se voit souvent dans des salons, et donc on regarde les nouveautés, etc., qu'est-ce qu'on fait, vers quoi on se dirige, parce que les gens évoluent, on n'est pas figé.
Non, puis des notions émergent à un moment donné, puis d'autres on a envie de les faire revivre.
Parce
qu'on sent que. Tout à fait. Entre éditeurs, y a-t-il également des travaux que vous faites en commun? Ou c'est quand même. Enfin, ce que je comprends bien là, c'est que évidemment on s'informe, et c'est déjà super. Ouais. Mais je me dis, tiens, y a-t-il. Comme il y a des ouvrages collectifs, est-ce qu'il existe des éditions collectives? S'il y a un gros travail à faire, en se disant, voilà, là, ça nécessite un investissement financier énorme, qui pourrait être un pari extrêmement risqué. Enfin, je ne sais pas, je réfléchis tout. Mais voilà, est-ce que ça existe?
Il y a des coéditions, ça peut exister, des coéditions. Ça m'est arrivé. Maintenant, c'est vrai que c'est faux. Ça peut arriver, mais pour nous, c'est assez rare quand même. On l'a déjà fait. Parce qu'ensuite, il faut vraiment être au point. Ensuite, il y a des problèmes de distribution, qui distribuent, comment on fait.
Sûr,
donc, il n'y a pas que se joindre. Mais évidemment, si par exemple, il y a un trop gros projet qui nous tient à cœur, etc., on va essayer de voir quelqu'un d'autre pour voir s'il peut coéditer. Mais ce n'est pas si simple que ça. Mm-hmm. Parce qu'on fait également partie d'une association qui s'appelle l'Alliance des éditeurs indépendants. Mm-hmm. Qui est mondial, et on voit qu'il y a des coéditions, donc et on voit que c'est pas toujours facile entre pays étrangers de faire des coéditions. Ça demande une rigueur, dans une sorte de presque de savoir qui fait quoi. Enfin, c'est vraiment
c'est pas si facile, pas en tout cas. C'est plus complexe qu'on ne le pense.
Oui,
qu'on pourrait l'imaginer.
Ça peut prendre beaucoup de temps.
www.éditionsplurielduSextant.com, c'est le site internet des éditions du Sextant. Est-ce qu'on a envie de ce métier d'éditeur et d'éditrice?
Difficilement, on va dire. Moi, j'en vis pas personnellement. Enfin, je me paye un peu en droit d'auteur, parce que beaucoup d'éditeurs font ça. Ils écrivent des préfaces, des textes aussi, voilà. Mais quant à en vivre vraiment, non. On est trop petit. Et donc, en revanche, je paye les gens avec qui je travaille. C'est-à-dire que j'ai des gens qui sont maquettistes, graphistes.
Voilà.
Et donc, je travaille avec des indépendants. Nous, il n'y a pas de salariés, mais c'est un réseau d'indépendants.
Oui.
Donc, des gens qui travaillent depuis longtemps. Et puis, c'est un partenariat, en fait.
Alors justement, j'allais te poser cette question-là, parce que je suis persuadé qu'on l'a tous un petit peu dans la tête. Quels sont les corps de métier avec lesquels vous collaborez de près? Tu viens de dire maquettiste, y a-t-il également des correcteurs? Qu'est-ce que je me suis noté? Y a-t-il également l'imprimeur? Certainement que vous parlez quand même. Alors raconte-nous un petit peu justement qu'est-ce que c'est que ce métier d'éditeur.
C'est un peu gérer un projet. Le projet, c'est du manuscrit de l'auteur jusqu'à... la livraison finalement dans une librairie pour que le lecteur puisse acheter, lire le livre. C'est ce travail-là, c'est un peu un travail d'organisation de divers corps de métier. Effectivement, bon, il y a déjà l'auteur. Le travailler avec un auteur, surtout en sciences humaines et sociales, ça demande parfois beaucoup de temps. Il y a de la réécriture, etc. Donc ça, c'est un travail assez long, assez... Il faut être assez souple, hein, parce que les auteurs parfois ont des égos assez forts. Et ensuite, évidemment, il y a la mise, ce qu'on appelle la préparation de copie. Donc, c'est plutôt moi qui fais ça. Moi, je fais plutôt le travail du texte. Et ensuite, il y a tout ce qui est mise en page, maquettisme, graphisme, jusqu'à l'impression, relecture des épreuves, etc. Avec l'imprimeur ensuite qui livre. Ces livres à l'entrepôt du distributeur. Et ensuite, ensuite il y a tout le travail en aval, c'est-à-dire prévenir des journalistes si c'est un livre, si c'est une nouveauté, qu'un travail d'attaché de presse. Donc là, on peut travailler avec des freelances ou des stagiaires parfois qui vont contacter les journalistes, les persuader de faire un article, etc.
Okay. Et puis ensuite, il y a effectivement les tournées des auteurs.
Alors oui, il y a les auteurs qui font des signatures, ouais. Etc. Donc,
ça touche à beaucoup, beaucoup de... Enfin, vous collaborez, c'est un gros réseau, hein,
oui,
quand
oui,
même.
Oui. Les correctrices... Moi, j'ai calculé un livre, ça peut demander 10 personnes, en fait.
Waouh, ok. Quand tu dis 10 personnes, c'est 10 fonctions distinctes.
Oui, distinctes. Si on regarde tous les gens qui vont mettre quelque chose dans un livre, que ce soit de l'auteur à l'attaché de presse, et je ne mets pas dedans les commerciaux, ceux qui vont proposer le livre au libraire.
Correctrice et correcteur, ça c'est aussi un moment un peu clé de...
Oui, moi je le fais souvent moi-même, mais s'il y a des spécificités, par exemple un livre sur la Russie, et s'il y a des mots en russe, je fais appel à quelqu'un de spécialisé.
Voilà, ouais, parce que ça peut être, et j'imagine, très coûteux de faire appel à des personnes qui sont spécialistes d'une langue, d'une sémantique.
Oui, oui.
D'accord.
Ou des traductions aussi.
Ça. Et des traductions. Vous faites ça, des traductions?
On en a fait, on a réduit, parce que là, en ce moment, on fait très très attention à la trésorerie, évidemment.
Bien sûr,
traductions, ça coûte cher. Quand on doit payer les gens...
C'est un gros boulot, hein, ça, ouais, j'imagine.
Et c'est plus risqué aussi, parce qu'une traduction, c'est aussi faire connaître parfois un auteur qui est très loin, qui ne peut pas se déplacer.
Oui.
C'est plus difficile à commercialiser, en fait.
Qui est-ce qui, à un moment donné, va décider, je pense justement que l'éditeur, l'imprimeur, peut-être la maquettiste ou quoi, mais qui décide à un moment donné de dire, on fait la césure là, on prend cette police là, plutôt que celle-là, ces décisions-là qui sont des décisions, j'ai l'impression, qui sont extrêmement importantes, parce que selon comment un livre est... Voilà, comment la mise en page est faite, selon quelle police on a, des fois on se dit, ah ça c'est raté, j'arrive pas à le lire. Enfin,
ouais.
Comment ça se décide, ça? C'est collectivement qu'on...
Ah oui, c'est collectivement. C'est le travail entre l'éditeur et le maquettiste. Oui, c'est, par exemple, le maquettiste va proposer, l'éditeur cherche une police avec certaines caractéristiques. Et évidemment, c'est vraiment un travail à plusieurs. C'est comme la maquette. Hein. Créer une nouvelle collection avec une nouvelle maquette, là aussi, c'est un travail collectif. Une couverture, faire un choix de couverture, donc c'est vraiment des échanges. Oui,
ouais, d'accord. Ouais, ouais. Et alors, on va dire un des personnages centraux, l'autrice, l'auteur, comment ça se passe avec... alors tu as parlé d'ego, effectivement, mais voilà, est-ce qu'il y a un rapport, un accompagnement? Est-ce que des fois on fait des suggestions en disant, ah, je sais pas, ce chapitre, est-ce qu'il est en trop ou pas? Je dis ça parce que typiquement, le livre bien connu de Orwell, 1980, l'hommage à Catalogne, je parlais de... Voilà, eh bien, il y a des chapitres qui sont mis en exergue, déplacés en post-face, j'ai envie de dire, en disant... Enfin, en tout cas, moi, dans un que j'ai... Alors, c'était dans une... est-ce que c'était Mercure de France? En tout cas, c'était pas le 10-18, mais quoi qu'il en soit, avec une petite note qui disait, pour les personnes qui sont intéressées à aller plus loin, allez lire ces chapitres, mais que l'on extrait du récit pour ne pas appesantir la narration.
D'accord, ça je savais pas.
Alors, en tout cas, moi j'ai ça dans une collection et j'ai gardé exprès ce livre-là parce que c'est la seule fois que je l'ai vu.
Ah oui, c'est étonnant.
Ouais, je crois qu'en préface, c'est indiqué. Alors voilà, je me demandais de quelle manière est-ce qu'on accompagne quand il est encore là, l'auteur. Est-ce qu'il y a un aller-retour, on discute, on repart, l'auteur reprend son texte, le revisite, enfin, comment ça se passe?
Oui, il y a bien sûr un travail avec un auteur, je dirais pas quotidien, mais à partir du moment où on a accepté le manuscrit, on travaille ensemble. Moi, par exemple, mon rôle d'éditrice, ça a été de dire là, tu devrais fouiller un peu plus ce chapitre-là, c'est pas assez dit. Et regarde là, et il y a tout un travail, regarde là, il y a un truc à faire sur. Je pense que c'était décortiquer en fait la nébuleuse UNESCO par rapport à l'idée de patrimoine. Donc c'est un livre qu'on a fait il n'y a pas très très longtemps qui s'appelle Tourisme, arme de destruction massive, hein, de Jean-Paul Loup. Et c'est une analyse par un chercheur de ce que c'est que le tourisme de masse planétaire, hein, donc, et les dégâts qu'il engendre sur tous les plans, c'est-à-dire pas seulement environnementaux, mais économiques, sociaux, sur les localités, les collectivités. Et ça peut être un village en France, comme ça peut être une grande ville, comme Venise ou Barcelone en Europe, ou même Saint-Marcande un peu plus loin. Donc là, il y a un travail en disant, recherche un peu, qu'est-ce que c'est que ça, il faut trouver des choses. Voilà. Donc on est un peu l'aiguillon en disant, là, ça va pas, etc. Bon, maintenant, le travail de réécriture, un auteur, c'est plus difficile. Si, par exemple, parce que l'auteur, il a tendance à, parfois, au bout d'un moment, à ne plus voir son texte. C'est-à-dire qu'il est trop dedans, il a besoin d'un regard extérieur. Et c'est nous, l'éditeur, ou la maquettiste, si ça l'intéresse, qui va apporter un regard sur le texte.
D'accord.
Voilà, donc c'est important comme.
Justement, j'imagine que ça va être vraiment. Et puis, il faut faire preuve de. D'empathie, mais de plein de choses, j'imagine.
De diplomatie. Bien sûr.
Puis en même temps être pertinent, et puis ne pas se tromper.
L'important, ce qui se crée même sur le chemin, c'est aussi finalement la confiance. C'est-à-dire qu'on voit bien que, quand, moi par exemple, cet auteur-là, dont je parlais, Jean-Paul Loub, c'était le cinquième livre que je faisais avec lui. Donc quelque part, ça veut dire qu'il était content à la fois sur tous les plans. Quoi. Même si c'est quelqu'un qui peut, un auteur peut travailler avec d'autres éditeurs aussi. Hein. Ça dépend des sujets. Ça dépend. Il y a un éditeur pour les romans nouvelles et puis tout ce qui est essai, moi je vais le prendre.
C'est un peu ça, c'est le j'y suis, j'y reste. Quand on débusque une autrice, un auteur, on essaye de continuer avec la personne.
Oui, bien sûr. Si. Alors, il faut toujours aussi que les sujets m'intéressent, hein, parce qu'il y a des sujets qui sont plus compliqués à faire. D'ailleurs, j'en profite pour dire que c'est vrai que le métier d'éditeur, est, en France en tous les cas, est parfois pas toujours facile à notre époque. C'est-à-dire qu'on a tendance aussi à s'auto-censurer parfois sur certains sujets. Par exemple, je pense à l'islam, etc. Et aujourd'hui, on peut dire qu'aujourd'hui... la liberté d'expression en France, elle est un peu menacée. C'est-à-dire qu'il y a des pressions aujourd'hui indirectes, insidieuses sur soit des partis, soit la presse, les médias. Par exemple, Mediapart a subi une tentative de perquisition. Encore plus récemment, Le Monde a également deux dirigeants qui ont été, et un journaliste, qui ont été convoqués au tribunal par rapport à un problème de diffamation d'un nom de quelqu'un qui aurait été dans les services spéciaux, etc. etc. Donc les conditions d'exercice de la liberté d'expression, on doit être aujourd'hui très vigilant. Et ça touche aussi les éditeurs.
Isabelle Pivert, merci beaucoup. Est-ce que tu as encore 5 minutes? J'aurai encore deux petites questions si tu es...
Oui, je t'en prie.
Ouais, alors, on y va. Et puis ensuite, on te laissera aller parce qu'effectivement, tu tiens un stand tout de même. Alors, on va te laisser à disposition des gens. Deux petites questions encore. Selon toi, le livre papier, est-ce qu'on peut dire que son avenir est assuré? Ou est-ce qu'en tant qu'éditeur, on y réfléchit et on se dit, tiens, les liseuses, ça peut être également, pourquoi pas, quelque chose, donc le texte numérique? Quel est ton point de vue?
Moi, j'ai un point de vue, donc c'est vraiment les éditions du Sextant, et c'est mon point de vue, et c'est pas forcément le point de vue de tous mes collègues, mais nous, on a fait le choix de pas faire du livre numérique, en tous les cas pour l'instant. On tient au papier, on tient à l'objet, livre, c'est un objet d'échange, un objet qu'on peut donner, prêter, jeter par terre si on veut, je veux dire, voilà, il existe toujours. Et en plus, c'est un instrument de la liberté, de cette liberté qui est parfois menacée de plus en plus. aujourd'hui, liberté d'expression ou d'édition, c'est aussi le, quand vous donnez ou vous prêtez un livre à quelqu'un, personne ne le sait à part vous et l'autre personne. Oui. Alors que si c'est du numérique, ça c'est passe, il y a des intermédiaires entre vous et la personne à qui vous échangez un livre numérique. Et donc, il y a quelqu'un qui sait ce que vous faites exactement. Donc, on est très vigilant par rapport à la surveillance induite par les technologies de l'information et de la communication. À ce jour, le livre est vraiment un outil de liberté.
Très bien, très bien. Quelles sont vos aspirations en tant qu'éditrice, éditeur, et les projets que vous ne vous interdisez pas, mais auxquels vous rêvez ou vers lesquels vous allez ?
Des projets, bon, j'ai eu des projets que j'ai dû abandonner qui n'étaient pas forcément liés à l'anarchisme, mais pour des questions de coût, par exemple des beaux livres. Ensuite, c'est le coût des images, c'est vraiment très très cher. Parce qu'un beau livre, si on met en table, c'est 40 000 euros, quoi. Je veux dire, si on doit faire un beau livre de 400 pages. Donc ça m'est arrivé d'abandonner des projets en me disant, bon, tant pis, c'est pas forcément essentiel. C'est aussi, ça peut être des coups de cœur, voilà. Ou alors, je vais me dire, ça c'est un livre intéressant, mais l'auteur... et inconnu, je vais pas avoir les reins assez solides pour le promouvoir,
oui, le porter.
Et donc là on hésite. Donc moi, mon idée surtout en tant qu'éditrice, c'est de durer, c'est-à-dire de continuer à diffuser, à faire des livres. Bon, là je vois Guy, sur le site Guy Ockenheim, La Révolte. Bon bah, je suis contente d'avoir fait ce livre-là. C'est un livre de grande qualité, une très belle écriture. Et il n'y avait pas beaucoup de livres sur ce personnage de mai 68. Donc c'est des livres comme ça. Donc moi, pour l'instant, je n'ai pas de regrets précis en me disant voilà, il y a quelque chose que j'aurais aimé faire, que je ne peux pas faire, etc. J'ai renoncé à certains projets. Mais quand je tiens à faire un livre, je pense que j'essaie de trouver les moyens de le faire. Mmh.
Voilà. La France, alors c'est votre principal, j'imagine, champ d'exploration, mais quand on dit France, on pourrait dire également la francophonie en général ?
Oui, on a eu des projets en main de l'Afrique, hein, donc via cette association, donc, oui. qui promeut des coéditions, des traductions. Mais on a traduit finalement pas de la francophonie, mais on a traduit du Brésil, donc via cette association. Mais oui, c'est maintenant, ensuite, il faut que ça rentre. D'abord, la première qualité, c'est quand même l'écriture.
Oui.
On peut avoir des thèmes très très intéressants, etc. Mais si au niveau de l'écriture, c'est pas suffisant, on risque de pas le faire, quoi. C'est parce
Bien
que
sûr.
Parce qu'on est très exigeant, en fait, au niveau de la qualité. C'est à la fois au niveau de la maquette, des couvertures, du sérieux de l'auteur. Voilà, ça c'est vraiment... On est perçu aussi comme ça. C'est-à-dire qu'on fait aussi des livres issus de la recherche. Donc voilà, et je pense que c'est important. Ouais.
Bien sûr. Et c'est plutôt vous qui sollicitez à ce moment-là, ou vous êtes plus sollicité et vous faites un filtre? Ou c'est un petit peu des deux, peut-être.
Les deux. En général, je fais pas de commande. C'est-à-dire, je dis pas à quelqu'un, tiens, tu vas faire un bouquin là-dessus, est-ce que ça t'intéresse, j'aimerais faire ça. Je fais pas de commande. C'est plutôt les auteurs qui viennent me voir et me disent, voilà, moi j'ai un truc, est-ce que ça t'intéresse, et on fonctionne plutôt comme ça.
Donc on peut lancer un dernier appel en disant, autrice, auteur qui parcourait notamment le courant.
Oui, allez voir notre catalogue, regardez ce qu'on fait, et puis n'hésitez pas à contacter, envoyer un petit synopsis, et puis voilà, quoi. Ensuite,
et puis alors, pour en
prend contact.
Oui. Hein. Bon, absolument. Pour en terminer là, à moins que des questions ne surgissent, là vous prendriez un micro, je parle aux personnes qui sont autour de nous, et bien le dernier livre que toi tu as lu, que tu aimerais nous conseiller, y a-t-il comme ça récemment quelque chose sur lequel tu es tombé, qui a capté ton attention?
Un livre extérieur, donc
comme tu le préfères. Quelque chose qui t'aurait touché particulièrement ces derniers temps.
Eh ben, bon, moi je vais parler du livre que je suis en train de lire.
Bah voilà.
Voilà, en plus c'est quelqu'un qui a été très, enfin, dans les milieux libertaires à la fin du 19e siècle, c'est Alexandra Daneville, et qui a écrit Le bouddhisme du Bouddha, et je trouve ça très intéressant, la pensée orientale. Et surtout qu'elle a été la première femme à aller au Tibet, une des premières occidentales. Donc c'est un personnage très intéressant et pourquoi pas justement sortir un peu de la francophonie aussi et d'aller voir ce que dit Lorient.
En tout cas, c'est bien noté, merci voilà. beaucoup. Alors Isabelle Pilaire, tu es la directrice des éditions du Sextant. Le site internet c'est www.éditionsduSextant.com. Sur le site, on trouve également les adresses de contact. Si des personnes qui écouteront ce podcast souhaitent vous solliciter, en tout cas s'informer, le catalogue est dessus également.
Merci beaucoup.
Merci et bonne continuation ici au Salon du Livre.
À vous aussi, merci.
Salut.
S'éclaire la ville, la nuit tombe, les rues s'illuminent, les vitrines attirent les yeux avides qui passent par ici, les moutons défilent comme des marchandises toutes identiques, direct sorties de cette machine qui les multiplie sans limite, chacun porte sa marque de fabrique, imprimée en filigrane, un code barre dans le crâne, tu connais le programme, le diable guette, les âmes se vendent et s'achètent, les dividendes se planquent en cachette, dans les banques de toute la planète. Dans les temples de la bête, les disciples se prosternent, adressent leurs prières aux maîtres qui veillent sur leurs affaires. Le business prospère, évite les grosses pertes, le crime paye pour les maîtres du système qui tirent les ficelles. Pendant que le peuple crève, se tue à la tâche, rame dans les galères modernes du salariat comme un bon esclave. Sacrifié sur l'autel du grand capital, mec, c'est le sang des prolétaires. Apaise la soif, bélaï, marche à l'abattoir, sur les trottoirs de l'enfer, mat. Le capital rebâtit le monde à son image. La bête règne en maître à l'aube du millénaire. Et déchaîne la colère de la terre mère. Le bétail marche sur les trottoirs de l'enfer mat. Le capital rebâtit le monde à son image. La bête règne en maître à l'aube du millénaire. Et déchaîne la colère de la terre mère. Je passe, je ne vois que des esclaves au travail. Vendre leur âme pour une place peu enviable dans la hiérarchie du diable. Perdre la vie qu'ils gagnent dans une quête illusoire. Mec, les âmes perdues errent en masse dans les rues du purgatoire. Les moutons se ressemblent tous à consommer leur ruine dans le vice des villes tristes. Tout le système les pousse, dilapider leur paye pour oublier leur peine. N'être qu'une bête de somme de forme humaine attachée à ces putains de chaînes. La main de Vrabakou encaisse les tout bas, pendant que le capital encaisse les sous du bout des doigts. La machine marchande écrase tout sur ce passage. Ces marches ou crèvent, une échappe à sa logique implacable. Leur monde s'annonce comme une accumulation sans fin de marchandises et d'illusions dont personne n'a besoin. Putain, la vie superficielle de nos modernes se ramène à la quête éternelle de richesse. Le bétail marche à l'abattoir, sur les trottoirs de l'enfer mat. Le capital rebâtit le monde à son image. La bête règne en maître à l'aube du millénaire. Et déchaîne la colère de la terre mère. Le bétail marche sur les trottoirs de l'enfer mat. Le capital rebâtit le monde à son image. La bête règne en maître à l'aube du millénaire. Et déchaîne la colère de la terre mère. Le béton des villes recouvre la terre à perte de vue. Les industries fleurissent sur les ruines du paradis perdu. Les cheminées d'usines crachent leur gaz toxique. Les nuages sombres s'amoncellent dans un décor apocalyptique. Sur les chantiers de Babylone, les esclaves suivent le maître. Les âmes perdues ont oublié l'histoire de leurs ancêtres. Arrachés de leurs champs, chassés de leurs terres comme des chiens errants pour rejoindre les rangs des masses prolétaires. Jetés aux portes des cités marchandes et des industries florissantes pour une poignée de pièces d'or sonnantes et trébuchantes. Pour produire tant de richesses qui leur échappent et qui s'affichent ensuite devant leurs yeux comme une force qui les dépasse. Et maintenant on arpente tous les boulevards de l'enfer, à perdre notre vie à la gagner pour un putain de salaire. Séparés de la terre mère d'où nous venons et où nous retournerons tous, tout un star qui nous soit. Le bétail marche à l'abattoir, sur les trottoirs de l'enfer mat. Le capital rebâtit le monde à son image. La bête règne en maître à l'aube du millénaire. Et déchaîne la colère de la terre mère. Le bétail marche sur les trottoirs de l'enfer mat. Le capital rebâtit le monde à son image. La bête règne en maître à l'aube du millénaire. Déchaîne la colère de la terre mère.